débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Les derniers chiffres de l'emploi en France ont été publiés en fin de journée et ils font état d'une légère éclaircie. Au mois de janvier, en effet, le chômage a enregistré sa première baisse depuis l'été. C'est une légère baisse, moins 0,5%. Alors une embellie qui ne doit pas cacher un contexte extrêmement morose. Il y a en France 3 480 000 demandeurs d'emploi sans activité. Et cette légère baisse ne profite pas à tous. Loin de là, le chômage de longue durée lui a continué d'augmenter le mois dernier. Pourquoi cette situation, alors que dans de nombreux pays de l'Union européenne, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse? Le chômage serait-il une malédiction française? C'est l'objet de notre débat ce soir. En studio avec nous, Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Christian Saint-Etienne, universitaire au Conservatoire national des arts et métiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. D'abord, on va tenter d'être optimiste. Est-ce que les derniers chiffres qui ont été publiés donc aujourd'hui augurent une baisse du chômage sur le long terme en France, Éric Heyer?
Il faut toujours être prudent quand on commente les chiffres mensuels. Vous voyez, en 2014, on a connu un mois de baisse et 11 mois de hausse. Donc, il faut faire vraiment très attention. Il va falloir une confirmation au mois de février, au mois de mars du chiffre de janvier pour penser qu'il y a un retournement. Et puis, par ailleurs, on se rend bien compte qu'on se focalise sur la catégorie A. C'est normal, c'est la catégorie un peu officielle, c'est le thermomètre.
Sans activité.
Mais c'est-à-dire que c'est des chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé au cours du mois de janvier. Mais on voit qu'il y a des chômeurs qu'on classe dans la catégorie C, c'est-à-dire qui ont travaillé deux semaines ou trois semaines au cours du mois. Et là, il y a une forte augmentation de ces chômeurs-là. Donc, et on sait qu'il y a des vases communicants, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrats signés et qu'il y a les deux tiers des contrats signés sont des contrats de moins d'un mois. Donc, vous voyez, on est dans cette catégorie-là où on peut signer un contrat de moins d'un mois, un mois, et puis pas le re-signer le mois suivant. Et donc, on passe de la catégorie A à la catégorie C, puis de la catégorie C, on revient dans la catégorie A. Donc, attention à tout cela. Il faut vraiment être extrêmement prudent dans le commentaire mensuel.
Et la multiplication de ces contrats, justement, est-ce que c'est ça le problème de la France face au chômage, Christian Saint-Etienne?
Non, enfin, la base du problème, c'est la faiblesse de la croissance.
0,4%?
Voilà, depuis 3 ans, sans parler du fait que depuis 15 ans, la moyenne de la croissance est à 1%, et le taux de croissance à partir duquel on crée des emplois spontanément dans le secteur marchand non aidé, c'est un 5, un 6. Donc, on a accumulé des strates successives de chômeurs, et tant qu'on ne reviendra pas à un 7, un 8, durablement 2% de croissance pendant 2 ou 3 années de suite, on n'aura pas une vraie franche baisse du taux de chômage.
Je vais vous donner un contre-exemple. La croissance de l'Allemagne est assez faible, 1,2%, certes c'est un peu plus qu'en France, mais jamais depuis la réunification le chômage n'a été aussi bas en Allemagne.
Oui, mais en Allemagne d'abord, vous avez une évolution démographique qui n'est pas la nôtre, puisque le solde net d'immigration est à 200 000, mais ce qu'on appelle la croissance naturelle, enfin le solde naturel entre mortalité et naissance doit être à moins 400 000, ce qui fait qu'ils ont une baisse de la population générale, de la population active, alors qu'en France, on continue d'avoir une population dynamique. Donc, en France, on a en gros besoin, ça fait longtemps, mais on a besoin d'un bon demi-point de croissance de plus que l'Allemagne pour avoir les mêmes évolutions du marché du travail.
Un des éléments clés, finalement, effectivement, face à cette croissance qui ne vient pas, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de monde sur le marché de l'emploi en France, Éric Heyer.
En tout cas, ça explique pourquoi, effectivement, il est plus difficile de faire baisser le chômage en France qu'en Allemagne. C'est un élément il faut pas avoir la démographie comme un handicap, non, c'est bien, mais à court terme, pour faire baisser le chômage, c'est plus compliqué, effectivement. En gros, il y a 150 000 nouveaux entrants nets sur le marché du travail chaque année. Hein. Donc, pour stabiliser le chômage, il faut créer 150 000 emplois. En Allemagne, ça baisse. Donc, vous voyez, même en détruisant des emplois, vous pouvez avoir une baisse du chômage. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est qu'ils ont, baissé la durée du travail. Alors, pas à la façon française, pas en faisant les 32 heures, etc., mais en créant des petits boulots, des petits emplois. Et donc, ça aussi, ça permet d'enrichir la croissance en emploi. C'est-à-dire que vous créez énormément d'emplois à temps partiel, c'est-à-dire que quand vous regardez les créations d'emplois en Allemagne, c'est exclusivement, on ne crée plus d'emplois à temps plein en Allemagne, c'est essentiellement et exclusivement du temps partiel.
Donc, du temps partiel mais pas des emplois précaires?
Alors, ça peut être précaire dans le sens où un certain nombre de ces emplois sont payés en plus à un salaire horaire extrêmement faible. Vous avez ces mini-jobs et midi-jobs où ces emplois sont payés à 4 euros de l'heure. Donc, quand vous travaillez 18 heures à 4 euros de l'heure, on peut considérer qu'on est précaire. Donc, ils ont fait plutôt le choix d'une paupérisation des salariés, mais tout le monde est dans l'emploi. Nous, on a une paupérisation de nos chômeurs. Vous voyez, bon, c'est un choix, mais ça explique aussi pourquoi...
Les chômeurs sont... Les précaires en France sont considérés comme chômeurs, et y a aussi... alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, oui. Ce n'est pas le cas. Ça en dit long sur la mentalité française,
finalement. Oui, il y a des travailleurs pauvres en Allemagne qui sont plus pauvres que nos chômeurs. Hein. Donc, effectivement, mais... On peut penser, si on est un peu vertueux, que bah, une fois qu'on a mis le pied dans le marché du travail, on peut ensuite progresser. Mais ça veut dire qu'il faut augmenter aussi le temps de travail en Allemagne et qu'il faut augmenter le salaire horaire aussi en Allemagne parce qu'aujourd'hui, ils ont un vrai problème de travailleurs pauvres.
Christian Saint-Etienne, je vous repose la question. Est-ce que la multiplication des emplois précaires peut relancer l'emploi en France ?
On n'a pas la même option en Allemagne qu'en France. Ceci étant, l'option française depuis une vingtaine d'années doit certainement évoluer. Je ne pense pas qu'on doive aller en direction de l'Allemagne ou de l'Angleterre, mais...
L'Angleterre, c'est effectivement intéressant de mentionner ce cas, hein, parce que le chômage est à son plus bas niveau depuis 2008 et les contrats précaires et temporaires se sont multipliés. Voilà, donc finalement, c'est encore
un deux phénomènes en Angleterre. C'est d'abord la multiplication, comme en Allemagne, de contrats précaires. Et puis en plus, il y a une croissance spéculative portée par l'immobilier qui est en ébullition. Donc s'il y a un effondrement de l'immobilier, il pourrait y avoir une grosse correction sur la croissance britannique. Mais si on revient sur l'Allemagne... on a certainement augmenté le SMIC trop fortement en France dans un contexte où il y a 200 000 jeunes, 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans formation et sans diplôme. Donc ils n'ont pas la productivité correspondante à un SMIC qui est à 12 euros de l'heure, alors qu'en Allemagne, on vient de le fixer à 8,5, mais qu'il ne s'applique pas à tous les secteurs, et que notamment il ne s'applique pas aux secteurs dans lesquels il y a le plus de travailleurs qui sont à 5-6 euros de l'heure, comme notamment dans l'agriculture, la restauration, un certain nombre de services commerciaux. Donc le SMIC en Allemagne va s'appliquer essentiellement dans les secteurs où les salaires sont très supérieurs au niveau où on va le fixer. Donc, de fait, il va pas réellement... Enfin, il va contribuer à augmenter les salaires de plusieurs centaines de milliers d'Allemands, mais de fait, d'après les estimations que j'ai pu voir, l'impact positif sur la masse salariale en Allemagne, c'est pas négligeable, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine de milliards d'euros. Donc, il va y avoir un certain nombre de travailleurs qui vont en profiter, mais fondamentalement, en France, voilà, les Allemands dans les secteurs les plus ouverts faisant appel à la main-d'œuvre d'Europe centrale sont entre 5 et 7 euros. Nous sommes à 12, 14, ce qui pose un problème, par exemple, à des secteurs spécifiques comme l'agriculture en France.
Donc c'est le coût du travail qui est à remettre en cause.
Oui, mais justement, il faut qu'on joue sur les deux leviers, c'est-à-dire il faut à la fois qu'on monte la qualification des jeunes, et puis que pour sans forcément revenir à un SMIC jeune, mais il y a plusieurs experts, plusieurs économistes qui proposent soit un SMIC progressif entre 18 et 25 ans pour les non qualifiés. Ça n'a pas de lien avec la tentative sous Villepin d'un SMIC jeune, parce que là, le SMIC jeune s'appliquait à tous les jeunes de mémoire, alors que là, l'idée, ça serait que ça ne s'applique qu'à ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais dans le même temps, il y a également des propositions qui sont faites, qui sont intéressantes sur un SMIC régionalisé. Parce qu'effectivement, le coût de la vie à Paris n'a rien à voir avec celui qu'on a en province. Donc, on pourrait imaginer d'avoir des SMIC régionaux plus faibles pour les jeunes non diplômés de 18 à 25 ans. Parce que l'idée, c'est de les mettre le pied à l'étrier pour qu'ils rentrent dans le marché du travail.
Éric Ayer, effectivement, c'est une des pistes, ça, de toucher au SMIC horaire en France pour relancer l'emploi.
Enfin, de façon très encadrée, hein. J'ai parlé uniquement pour les jeunes non qualifiés de 18 à 25 ans.
Voilà, Éric Ayer, votre réponse.
Je pense que la mauvaise porte d'entrée, mais ça a été dit, ça serait de le faire sur les jeunes. En fait, il n'y a pas de... Les jeunes, c'est extrêmement hétérogène comme classe. Et donc, c'est vraiment les peu qualifiés qui sont en grande difficulté. Donc, effectivement, il faut le cibler sur les non qualifiés et pas le faire sur les jeunes. Vous avez des jeunes qui n'ont aucun souci pour trouver un CDI, des jeunes qui n'ont aucun problème pour trouver un CDD. Et c'est vraiment les jeunes très peu qualifiés. Donc, il faudrait le cibler sur les non qualifiés. Alors, on peut dire que ça existe déjà plus ou moins. Vous voyez, tout ce qui est apprendre apprentissage, tout ce qui est contrat aidé, c'est déjà des contrats spécifiques pour des jeunes non qualifiés avec un salaire qui est inférieur au SMIC. Donc ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il faudrait le développer. Il faudrait surtout développer sur le secteur privé. On le fait surtout sur le secteur non marchand, mais ça existe déjà via cet apprentissage, etc.
Ouais, l'apprentissage, j'allais en parler justement. Ouais. Effectivement, ce sont les jeunes qui s'en sortent finalement le mieux. Il faut approfondir cette piste-là, sortir un petit peu de la reconnaissance par le diplôme, qui est une des marques françaises.
Le diplôme, tout de même, enfin, il y a des études d'Augustin Landier, David Tesmar, qui indiquent qu'à partir de 1,3 fois le SMIC, vous voyez, on est quasiment au plein emploi en France. Hein, et que le chômage, c'est vraiment les personnes qui sont au niveau du SMIC, et c'est-à-dire des personnes peu qualifiées. Si on considère que la qualification augmente avec le salaire, donc il y a un lien entre les deux.
C'est d'abord au bas salaire qu'il faut s'attaquer.
Et donc, on est au plein emploi assez vite. C'est-à-dire, dès qu'on a un diplôme, on n'est pas forcément en CDI. Donc, il y a l'intégration qui est difficile. C'est-à-dire que, mais on est sur le marché du travail. On passe de CDD en CDD quand on n'est pas trop qualifié, mais on est sur le marché du travail. Le chômage, c'est vraiment une spécificité des non qualifiés. Et donc, soit on essaie de les qualifier, d'essayer de les retenir en scolarité, à l'université, mais c'est compliqué pour un certain nombre de jeunes. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver une autre façon de les qualifier que l'université, et donc ça peut effectivement passer par de l'alternance, par de l'apprentissage, et c'est sans doute une façon vertueuse de les intégrer sur le marché du travail, et donc il faudrait développer ça. Effectivement, on le développe pas assez. Le modèle allemand, de ce point de vue-là, est sans doute vertueux, pas pour ce qui se passe dans les services, mais dans l'apprentissage, sans doute, on pourrait s'en inspirer.
Est-ce que les outils mis en place par le gouvernement, justement, je pense au pacte de responsabilité qui prévoit une baisse de charges, les emplois d'avenir, vous en avez parlé, peuvent permettre justement à ces personnes peu qualifiées de retrouver un emploi. Christian Saint-Étienne.
Alors, une remarque et une réponse. La remarque pour conforter ce qui était dit précédemment et le rendre peut-être plus fort pour les auditeurs. Quand vous avez un diplôme, je parle sous le contrôle d'Éric, mais vous avez un taux de chômage qui est de 5-7%. Mm-hmm. Quand vous en avez pas, et selon le temps passé au chômage, le chômage peut aller de 20-50%. Donc c'est pas juste une question de degré, c'est une question de nature. Alors si vous avez un diplôme, vous intégrez plus ou moins facilement, mais vous intégrez, vous en avez pas, c'est vraiment la dèche.
Donc il faut s'attaquer effectivement aux personnes peu qualifiées.
D'ailleurs amène à la question que vous posiez, et très vraisemblablement, mais enfin c'est un problème malheureusement récurrent en France depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on en parle, c'est par la formation professionnelle et par l'alternance qu'on peut y arriver, mais il faut s'interroger sur la raison pour laquelle on n'arrive pas à développer la formation professionnelle.
C'est culturel ?
Justement, d'abord, il y a des travaux très intéressants qui sont menés au Collège de France par des spécialistes d'analyse des mécanismes d'apprentissage. On montre aujourd'hui des choses terrifiantes, c'est que si à 8 ans, on ne maîtrise pas la lecture, l'écriture et le calcul, c'est prédictif à 80% de la situation de sortie du système éducatif à 18 ans.
Ça veut dire que la lutte contre le chômage commence par la lutte contre le décrochage scolaire.
Exactement, et au plus tôt. C'est-à-dire que si on devait mettre le paquet à l'école, ça serait dans 3 années, qui sont la dernière année de maternelle, le cours préparatoire et le CE1, et on devrait avoir des évaluations de tous les enfants à la fin du CE1, parce que tous ceux qui sont en difficulté en termes de maîtrise des trois compétences, lecture, écriture et calcul à la fin du CE1, c'est terrifiant, moi ça me terrifie, mais ces évaluations qui sont faites, mais disent donc que 80% d'entre eux seront dans les sans diplôme qui ensuite auront un taux de chômage de 50%.
Mais ça veut dire que finalement le gouvernement fait fausse route en investissant sur des outils, pas de compétitivité, on en a parlé, la priorité...
C'est le gouvernement, mais c'est tout.
La priorité, c'est l'école.
Oui,
en termes d'investissement.
Pour distribuer les claques de manière égale, c'est tous les gouvernements depuis 20 ans. Voilà, c'est pas celui-là.
Bien sûr.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la façon dont on organise le système éducatif. Ce sont les préjugés culturels du pays qu'il faut changer. C'est très lourd. Parce que accepter de faire une évaluation des gamins à la fin du CE1, il y a des gens qui hurlent en disant, mais on n'a pas le droit. Mais si les études qui sont faites au Collège de France sont vraies, alors c'est ne pas faire d'évaluation qui est monstrueux. Voilà, et ça, donc ça veut dire qu'il faut collectivement, c'est pas une question de gauche et droite, c'est collectivement, il faut qu'on dise, bah, si c'est vrai qu'à la fin, que la situation, que le degré de maîtrise des compétences de base à la fin du CE1, c'est prédictif de ce qui se passera à 20 ans, ben, il faut que on agisse à ce moment-là, c'est-à-dire dans les trois premières années, quitte à, et alors, puisqu'on parlait du gouvernement, je termine, le gouvernement, le président de la République avait dit qu'il allait créer 60 000 postes. On aurait pu s'attendre, corrélativement à ce qui vient d'être dit, qu'on mette ces postes dans les trois années que j'évoque. En fait, 40 000 ont été mis sur le collège. Donc, ça montre bien que voilà, c'est une question d'approche globale qui ne colle pas.
Éric Heyer, le principal frein, finalement, pour la réduction du chômage, il est dans les mentalités françaises ?
Oh non, mais pas que ça. Mais, plein de choses ont été dites de juste, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a les politiques sur la petite enfance. Le problème, c'est que le politique ne verra jamais les fruits de cette politique-là. C'est que ça va mettre longtemps avant d'avoir des répercussions. Aujourd'hui, on essaie de lutter contre le chômage à très court terme. Donc, vous voyez, le traitement social du chômage, vous voyez, ça marche. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, les chiffres du chômage des jeunes est en baisse ce mois-ci parce qu'on crée beaucoup d'emplois aidés. On voit bien que c'est une politique de très court terme. C'est-à-dire que ben, ces emplois-là ne sont pas pérennes. Et donc, mais on veut faire baisser le chômage assez vite. Le CICE, vous avez demandé, est-ce qu'on ne fait pas fausse route ? Ben, là aussi, c'est une politique de moins court terme parce que ça met du temps, mais tout de même de court terme. Donc, il faudrait en fait pouvoir mener de front des politiques de court terme et de long terme.
Est-ce que la loi Macron, dans ce sens-là, peut changer les choses en s'attaquant justement à des symboles, aux professions réglementées?
Pourquoi pas? Alors là, ça irait plus chercher un tout petit peu des points de croissance. Mais là, on n'est pas au point de croissance, on est dixième de point de croissance. Donc ça ne sera pas suffisant pour faire un choc. On voit bien qu'on est face à la fois à un problème de croissance, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'activité, et ensuite des problèmes un peu plus structurels, c'est-à-dire ces jeunes qui sortent sans rien, qui aient de la croissance ou pas, ils seront au chômage. Donc il faudrait mener de front ces deux politiques-là, il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui s'attaque vraiment aux politiques de. Que vient de dire Christian Saint-Etienne, mais on voit bien que mettre l'accent sur les jeunes qui sont, enfin, les enfants qui sont en dernière année maternelle, voyez, le temps qu'ils arrivent sur le marché du travail, l'homme politique, ça l'intéresse plus. Donc c'est sans doute ça le problème.
Donc intervenir davantage en amont, comme le dit Christian Saint-Etienne.
Oui, mais il faut aussi penser au court terme, c'est-à-dire qu'il faut penser aussi, ouais, il faut faire les deux, c'est-à-dire que aujourd'hui on est quand même à 10%, 11% de chômage, et on peut pas dire à cette génération, écoutez, maintenant on met le paquet sur les jeunes qui arrivent, donc il faut faire les deux, c'est important.
Mais on a beaucoup mis en cause, par exemple, le code du travail, la non flexibilité justement en France du travail. Est-ce que finalement il faut attaquer également sous cet angle-là, Christian Saint-Etienne?
Alors, si on regarde de façon très technique, il faut répondre oui. Si on regarde en termes d'économie politique du sujet, on réforme pas un pays contre sa culture et contre sa vision du monde. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas une mesure qui peut résoudre le problème, c'est un package. C'est-à-dire que, oui, il faut de la flexibilité, mais si on fait que ça, dans un contexte où il n'y a pas de croissance et où 20% des gamins n'ont pas la bonne formation, ben on crée des dégâts. Il faut simultanément faire des mesures structurelles sur les jeunes, enfin les gamins de maternelle pour réduire le problème dans 15 ans ou 20 ans. Il faut mettre le paquet sur les gamins de 15 ans qui sont dans les collèges actuellement pour les mettre en formation en alternance s'ils sont en décrochage parce qu'on va pas leur dire, on va pas dire, bon ben vous êtes foutus pour 40 ans, on vous oublie. Donc il faut agir à ce niveau-là. Et si on fait de la flexibilité, je pense qu'en même temps, il faut avoir des mécanismes qui poussent à l'investissement du secteur productif, parce que ce qui est assez problématique, c'est que les entreprises, en dépit de ce qu'on évoque actuellement, la baisse du prix du pétrole, la baisse relative de l'euro d'ailleurs, et la baisse des taux d'intérêt, il n'y a pas de rebond de l'investissement. Donc, si vous faites que de la flexibilité, sans agir sur le structurel, sans agir sur la formation permanente et professionnelle, et sans relancer l'investissement, vous faites des dégâts.
Donc intervenir à plusieurs niveaux. Merci Christian Saint-Etienne, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Merci également Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ce débat est à présent terminé. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.rfi.fr.